Voilà, bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'être présents pour accueillir et écouter Philippe Dessan. Voilà, bonsoir.
Merci.
Bonsoir Philippe Dessan, bienvenue à Bordeaux et dans la ville de Montaigne. Mm-hmm. Voilà, nous avons une heure pour essayer de décrypter un petit peu ce nouvel ouvrage que vous consacrez à Montaigne. Montaigne, donc vous êtes, pour ceux qui ne vous connaissent pas, un très très grand spécialiste. Vous avez d'ailleurs enseigné un temps à Bordeaux, comme on appelle, on dit aux États-Unis, visiting professor,
oui.
Puisque habituellement vous enseignez dans la grande université de Chicago,
mm-hmm.
Donc qui est, me disiez-vous à l'instant, une des trois plus grandes universités des États-Unis et donc forcément du monde.
Au monde, oui.
Au monde, voilà. Et donc où vous enseignez, donc non pas Montaigne au sens stricto sensu, mais vous enseignez l'histoire des idées et de la Renaissance, l'histoire des idées de la Renaissance. Donc c'est évidemment Montaigne s'inscrit entièrement dans ce secteur. Et donc la bibliographie, évidemment j'ai eu la curiosité de regarder la bibliographie que vous consacrez à Montaigne. Elle est énorme, elle est considérable. Donc je ne la citerai pas en entier. Je citerai simplement deux items. D'abord une biographie politique de Montaigne que vous avez publié, d'ailleurs je crois chez Odile Jacob aussi en 2014, et puis un gros dictionnaire Montaigne que vous avez dirigé avec donc de nombreux spécialistes, un dictionnaire qui compte plus de 700 entrées je crois et qui est en train d'être réenrichi et republié, qui va être republié incessamment sous peu.
Oui, pour Noël.
Pour Noël, voilà. Donc ça sera un très beau cadeau de Noël à faire, voilà, à tous vos amis. Le livre dont nous parlons aujourd'hui, Philippe Dessan, s'appelle Montaigne, penser le social. Alors évidemment, quand on évoque Montaigne, c'est pas nécessairement l'aspect qui saute plus immédiatement aux yeux, et en tout cas, c'est pas l'aspect qui a le plus, je dirais, inspiré tous les commentateurs de Montaigne, qui ont, pour la plupart d'entre eux, pas tous d'ailleurs, vous allez nous le dire, mais qui ont, pour la plupart d'entre eux, insisté sur, le moi de Montaigne, ses particularités, son originalité, son idiosyncrasie, si on peut dire, toutes ces particularités, les originalités de son esprit, qu'il a lui-même d'ailleurs mis en scène dans les essais. Et pour les commentateurs, évidemment, il était tentant de faire de Montaigne une sorte de personnage un peu unique en son siècle, totalement décalé par rapport à son siècle et qui apportait dans cette période de fureur qu'étaient les guerres de religion au milieu desquelles il a vécu, donc une sorte de sagesse un peu antique et un recul, un refuge, la tour de Montaigne, son isolement donc dans la tranquillité de sa tour pour réfléchir aux malheurs du monde et scruter l'intérieur de son esprit. Alors vous inscrivez en partie en faux contre cette vision-là. Est-ce que vous pourriez peut-être de nous préciser un peu le sens du projet qui consiste à réintégrer Montaigne dans une socialité, dans une société et dans un projet collectif.
Oui, tout à fait. Je tiens d'abord à vous remercier d'être ici dans cette belle ville de Bordeaux, la ville de Montaigne, bien entendu. Montaigne, maire de Bordeaux pendant 4 années, il ne faut pas l'oublier. Et c'était le point de départ d'un livre, d'une biographie politique que j'ai fait il y a 4 ans, qui consistait à lire Montaigne différemment, et a montré effectivement la dimension politique qu'a toujours voulu avoir Montaigne durant toute sa vie, puisqu'en fait, s'il a écrit ses essais, c'était surtout pas à partir de campagnes d'écriture, mais qu'il a été garant d'une vie active politique dès le début, début des années 1570 jusqu'à son décès en 1592. Donc l'idée de ce livre, après la publication de cette biographie politique, il y a eu beaucoup d'échanges, elle a été traduite en anglais, publiée aux États-Unis par Princeton University Press, revue dans la grande presse américaine, et elle a en fait mieux marché aux États-Unis qu'en France. Mais on m'a dit beaucoup, le reproche qu'on m'a fait, c'était de dire, mais non, franchement, Montaigne, c'est un philosophe, c'est un écrivain, mais la vie politique, c'est pas vraiment Montaigne. Et effectivement, il y a une image d'Épinal qui perdure sur Montaigne, vous l'avez dit, Montaigne dans sa tour, retiré du monde, regardant sa chatte et se posant la question, est-ce que la chatte pense à moi ou est-ce que je pense à elle? Donc Montaigne, retiré du monde, idiosyncrasique, comme vous l'avez dit, singulier, c'est l'expression d'une différence inimitable, il n'y a qu'un Montaigne. Ce qui m'intéressait, c'était de voir Montaigne différemment et de penser le particulier, de penser le subjectif de Montaigne, de penser le moi de Montaigne, dans un réseau plus large, dans un système de clientèle notamment, qui est très important au XVIe siècle. Montaigne appartient à des groupes dont il accepte quelquefois l'idéologie, qu'il rejette parfois, et donc de considérer Montaigne en tant qu'être social, bien entendu, à partir de Durkheim, le premier sociologue, ma formation est en sociologie en France. Durkheim, au début du XXe siècle, s'était déjà posé cette question, comment comprendre le singulier dans le collectif. Et en fait, c'est cela qui m'a intéressé, c'était donc de réinvestir Montaigne dans les sciences sociales, d'avoir une lecture de Montaigne, ce qui n'a pas été fait, je dois le dire, encore une fois, à partir des sciences sociales, notamment la sociologie et l'anthropologie. Alors ça a été fait, je le sais, un peu en anthropologie, mais toujours à partir d'une sorte de caricature de Montaigne, qui sont les deux fameux chapitres, les cannibales et des coches, bien entendu, où on voit Montaigne, l'expression parfaite du doute, du scepticisme, pourrait-on dire, et du relativisme absolu. Alors que Montaigne, c'est un peu plus compliqué que cela. Il y a une dimension sociale qui a à voir avec la vie publique et une séparation effectuée tardivement par Montaigne entre vie privée et vie publique. Oui. Et cette articulation est essentielle chez Montaigne, il me semble.
Alors évidemment, le premier point duquel on peut partir, c'est de considérer la vie publique de Montaigne, parce qu'au fond, elle a été très importante. Avant de se réfugier dans sa tour, comme vous le dites, il a quand même été maire de Bordeaux, il a été parlementaire au Parlement de Guyenne, il a été médiateur dans certains conflits, il a été ambassadeur, il a été chevalier de l'ordre de Saint-Michel. Bon, enfin, il avait une vie sociale. Bon, il avait une famille en plus. Bon,
bien sûr.
Beaucoup d'amis. Il avait une vie sociale très intense, Montaigne, oui. et pratiquement tout le temps. Il n'a jamais cessé d'avoir une vie publique qui ne pouvait pas ne pas avoir de conséquences sur sa vision du monde. Alors peut-être la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Montaigne, et qu'est-ce qui s'est passé aussi dans la tête de ceux qui ont commenté son œuvre pour un peu oublier cette partie si importante de ça, de ce que vous appelez la socialité de Montaigne.
Voilà. Hein,
et lui dit qu'il est sociable aussi.
Absolument. Il n'y a pas d'être plus
très très sociable.
Il
n'y
a pas d'être plus sociable. Montaigne est tout à fait conscient qu'il a une existence publique. Il a des vues publiques. Il propose des systèmes. Quand Montaigne est maire de Bordeaux, il agit en tant qu'un maire, surtout durant son second mandat, de façon très active socialement. Donc voilà, donc il y a une dimension sociale très importante chez Montaigne, avec une réflexion sociale qui a fait place, effectivement, avec la fameuse écriture qu'on voit dans les marges de l'exemplaire de Bordeaux, mais qui est très tardive, puisqu'il faut le répéter, Montaigne a écrit ses essais sur 20 années. Il a commencé à rédiger ses essais en 1572, jusqu'à son décès en 1592. Et vous avez à peu près trois éditions importantes. La première édition chez Miange en 1580. Et tout ce qu'écrit Montaigne, véritablement, c'était pour moi une révélation il y a une vingtaine d'années, quand j'ai enseigné les essais, mais uniquement à partir de la première édition des essais publiée par Miange à Bordeaux en 1580. Et là, vous n'avez absolument pas le moi tel qu'on l'entend aujourd'hui. Ce sont des réflexions, des discours politiques, des discours sur, effectivement, des phénomènes d'ambassade, et de morale principalement politique. Et on voit que là, Montaigne entreprend une carrière publique avant tout, et son livre est conçu dans cette optique, qui est une optique publique.
Et son livre est même, je dirais, un acte politique.
Absolument, absolument. C'est sert pour Montaigne pour approcher le roi. Donc vous avez déjà une première dimension qui représente environ un tiers des essais. Aujourd'hui, 35% exactement, ce qu'on appelle la couche A des essais, qui correspondent à cette première écriture de 1572 à 1580. Montaigne va être nommé maire de Bordeaux après un fameux voyage, bien sûr, à Rome. On a cru que ce voyage, il avait écrit son livre et il voulait prendre des vacances. Pas du tout. J'ai trouvé des documents à Rome où on voit que Montaigne est en mission et il essaye d'obtenir effectivement une position à Rome en tant qu'ambassadeur. Face à un échec, le roi lui promet des choses. Le roi Henri III ne tenait pas vraiment ses promesses à cette époque, et Montaigne est rappelé à Bordeaux pour être maire, qu'il fait à contre-cœur. Et là, vous avez une partie de nouveau très importante, très active, jusqu'à la fameuse édition de 1588. Et donc vous avez ici, qui représente environ 30%, les ajouts qu'on appelle de la couche B des essais, qui représentent tout le troisième livre, plus les ajouts dans le premier et le second livre. Donc vous avez déjà deux tiers des essais tels qu'on les connaît aujourd'hui qui ont une dimension profondément sociale et politique. En 1588, Montaigne commet une erreur grave. Il est à Paris, il suit le roi qui s'enfuit et il est embastillé. Il est malade, il est embastillé, il est malade à cette époque-là. Il rentre à Bordeaux et là, effectivement, durant les trois dernières années de sa vie, Montaigne rédige ce manuscrit extraordinaire que nous avons à la bibliothèque de Bordeaux ici, qui sont les fameux ajouts dans l'exemplaire de Bordeaux, qui représentent environ 27% du texte de Montaigne. Mais ces 27% représentent aujourd'hui, parmi les spécialistes de Montaigne, environ 80% des citations utilisées aujourd'hui. C'est ce qu'on retient de Montaigne. C'est effectivement la particularité de Montaigne, l'expression d'une vie singulière qui est toujours donnée. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir de l'autre volet qui représente en fait 70%, 72% de Montaigne.
Alors, donc vous attaquez Montaigne par l'angle, par le versant de la sociologie.
Absolument.
Et alors, ce versant de la sociologie, donc, ça consiste bien à repérer dans l'écriture de Montaigne, dans son œuvre, ce qu'il y a de profondément donc social. Alors, vous reprochez, alors, cette démarche qui est la vôtre, elle se démarque assez profondément de beaucoup de lectures plus classiques de Montaigne, à qui vous faites des reproches, hein. Vous dites, il y a une lecture que vous appelez psychologisante de Montaigne, et puis et aussi une approche que vous appelez belle lettriste. Ça veut dire quoi, ça, belle lettriste?
Belle lettriste, c'est-à-dire qu'on s'est passionné pour le style singulier de Montaigne, hein, on s'est passionné pour ce style court, cette réflexion typiquement française. Donc c'est un peu l'anti-Descartes. Il faut bien comprendre que la réinvention de Montaigne au début du XIXe siècle, Montaigne est pratiquement ignoré dans l'enseignement et dans la classe intellectuelle française jusqu'au début du XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, nous sommes en pleine période romantique. Les Allemands ont le dessus sur la France. Il suffit de lire Madame de Staël à ce niveau-là. Et donc il y a une sorte de... On essaie de compenser. Alors on a Descartes. Descartes, effectivement, c'est le cartésianisme, c'est la présentation, c'est la réflexion par la raison. Mais il nous manque quelque chose que les Allemands ont, que la France n'a pas au début du XIXe siècle, c'est l'imagination. Et on va trouver chez Montaigne l'alter ego de Descartes, et tout d'un coup, la pensée française va concilier, pourrait-on dire, Montaigne et Descartes.
C'est-à-dire d'un côté le ratiocineur et de l'autre côté l'humaniste.
Un peu singulier, qui s'intéresse peu aux autres. Encore une fois, c'est un des clichés, mais c'est ce qui va plaire beaucoup de Montaigne, et cette image va continuer à exister. Alors, il devient, non pas philosophe au début, mais écrivain, pourrait-on dire, auteur. Hein, donc, vers la fin du XIXe siècle, il va passer en philosophie. Donc, finalement, la philosophie et les lettres ont accaparé Montaigne, et on a totalement ignoré la carrière politique de Montaigne. Le docteur Payen, qui était un montaignologue du XIXe siècle, le plus grand montaignologue au XIXe siècle, disait toujours « Il n'y a rien à prendre sur Montaigne qui ne soit dans ses essais. » Alors que nous savons très bien...
Alors ça, c'est pas du tout votre avis.
C'est pas du tout mon avis. Nous savons
très
bien.
Puisque vous parlez de ce qui s'appelle le péritexte, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas dans les essais, mais qui gravite autour,
complètement.
Et sans lesquels, pour vous, les essais ne sont pas compréhensibles.
Absolument. Donc ce qui m'intéressait de voir, c'était à quel réseau Montaigne appartient-il? Qu'est-ce qu'il représente comme groupe de pression? Dans quelle clientèle évolue-t-il? Donc d'étudier Montaigne dans son milieu social, plutôt que comme exception, de démontrer qu'effectivement, il appartient à des groupes, il a des ambitions qui sont des ambitions de groupe un peu à la Bourdieu, pourrait-on dire.
Hein, donc, vous citez Bourdieu d'ailleurs souvent.
Je cite Bourdieu, effectivement. Bourdieu a fait ce travail sur Flaubert, vous savez, pour bien montrer effectivement que Flaubert était aussi dans un système de production sociale et que l'exception Flaubert n'est pas si flagrante finalement. Donc on pouvait, à mon avis, faire peut-être mieux encore que pour Flaubert la même chose avec Montaigne.
Alors vous montrez, vous parlez de l'accaparement de Montaigne par les philosophes, par les lettrés, aussi par les psychologues finalement. Les psychologues, on pourrait même peut-être dire aujourd'hui les psychanalystes, parce que les essais de Montaigne, semble être une mine pour tous ceux qui s'interrogent sur la psyché humaine, voilà. Et sur ces méandres.
Bien sûr,
Dieu sait que Montaigne, la pensée est en méandre. Et progresse progresse en spirale de façon assez fascinante.
Oui, donc on s'est beaucoup intéressé au début du XXe siècle au tempérament de Montaigne et au caractère de Montaigne. dans une caractérologie, pourrait-on dire. Donc c'est une approche psychologisante qui permet effectivement d'individualiser. C'est-à-dire qu'on trouve chez Montaigne effectivement l'individu seul qui permet de produire ce texte, les essais, un texte singulier et qui n'est pas du tout, qui ne bouge pas et qui n'a pas de dimension sociale, qui est l'exception. Et donc, je m'insurge un peu, peut-être un peu de façon extrême dans ce livre, effectivement, contre ces lectures psychologisantes de Montaigne pour effectivement retrouver la dimension plus sociologique et anthropologique qui est, à mon avis, fondamentale quand on lit les essais aujourd'hui.
Alors, ce qui est très intéressant dans toute la première partie où vous exposez votre méthode, c'est de bien opposer ce que vous appelez l'individu propre, enfin je ne sais pas l'expression, c'est l'individu individuel,
singulier, oui,
l'individu singulier, oui. Et puis de l'autre côté l'individu collectif. Est-ce qu'il y a un individu? Alors autrement dit, lorsque nous mettons à part et que nous faisons preuve d'originalité par rapport à notre milieu, il ne faut jamais oublier qu'il y a des normes sous-jacentes.
Absolument.
que l'individu est obligé de respecter pour s'y opposer. Ouh. Et donc comment ça se traduit chez Montaigne?
Souvent de façon inconsciente.
Cette ambivalence.
Il y a d'ailleurs un concept qui n'est plus très à la mode aujourd'hui, mais qui est très utile dans le cas de Montaigne, c'est ce qu'on conçoit comme l'idéologie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'idéologie? C'est ce qui nous structure, c'est ce qui structure nos désirs, c'est ce qui structure notre pensée, mais de façon inconsciente. C'est le résultat d'une éducation, c'est le résultat des institutions auxquelles nous appartenons, dans lesquelles nous pouvons penser de façon singulière, mais cette singularité elle-même est structurée effectivement par le social et l'idéologie dans lequel nous évoluons et auquel nous appartenons. Et c'est ça qui m'intéressait effectivement, de voir comment peut-on concevoir le singulier Montaigne dans un schéma plus large, un schéma idéologique. Je vous donne un exemple, par exemple, qui m'a fasciné. J'avais fait un livre il y a très longtemps là-dessus, sur le discours économique des essais. Je me suis aperçu qu'il y avait dans les essais, vous avez notamment un chapitre très connu qui s'appelle « De trois commerces ». Et Montaigne est le premier à concevoir cette notion de commerce en tant que rapport social. Alors, nous y sommes tellement habitués aujourd'hui, ça paraît évident aujourd'hui, quand vous analysez le discours quotidien que nous avons tous, aussi bien à la télévision que parmi nos cercles que nous connaissons, nous avons un système principalement fondé sur des rapports économiques. Nous sommes gagnants, nous sommes perdants, nous empruntons, nous rendons. Enfin, le discours elle-même est prisonnier de cette idéologie économique marchande. N'oubliez pas qu'au XVIe siècle, c'est la nouvelle classe qui se dégage, cette perte de la noblesse, la bourgeoisie, émerge au XVIe siècle et fait adopter sa vision du monde et aussi son langage. Et donc vous avez chez Montaigne quelqu'un qui personnellement rejette effectivement le commerce et ce qu'il appelle la mercadance, mais d'un autre côté le fait à partir d'un langage principalement économique.
Alors c'est vrai que quand il parle des rapports humains, des rapports avec autrui, il utilise volontiers un langage de transaction.
C'est cela.
Alors on est évidemment très marqué par son amitié pour la Boétie, oui. Donc la gratuité des rapports
c'est
humains.
Ça, oui.
Mais en même temps, quand il parle de l'amitié, quand il parle quand il parle d'autrui, il utilise des mots. Qu'est-ce qu'il utilise comme mots? Donc des mots qui sont
emprunter, rendre. Faire une enrichir, ouais. Notamment. Donc vous avez cette.
Il nous montre toujours que l'échange est un. L'échange
ouais. est... Et chez ce qui est très intéressant, alors il y a la Boétie. La Boétie est exclue de ce schéma économique et représente une économie du don. Et donc on se donne tout entier à l'autre, un peu sous une forme de potlatch en anthropologie, vous savez, où vous avez un statut du fait que vous vous débarrassez de toutes vos possessions. Au moment d'un rituel. Et vous avez donc cette approche dans la Boétie qui n'existe plus et qui ne sera jamais remplacée. La perte d'une économie disparue, une économie nobiliaire fondée sur le don. Alors qu'au XVIe siècle, nous sommes dans une économie marchande, de profit ou de perte. Et Montaigne utilise les termes perte et profit, mais des centaines de fois dans ses essais. Alors nous sommes moins aujourd'hui conscients de cela, puisque nous sommes tellement habitués à voir ces mots-là. Mais au XVIe siècle, c'est totalement
mais
nouveau.
C'était très nouveau.
C'est tout à fait nouveau. Et d'ailleurs, le premier traducteur de Montaigne en anglais, qui s'appelle John Florio, qui commence sa traduction en 1598, 6 ans après la mort de Montaigne seulement, publie son livre en 1601, n'arrive pas à traduire cette langue-là, et il va parler de 3 types de rapports. 3 types of association. en anglais. Hein. Donc il comprend bien qu'il ne peut pas traduire Mimet en anglais de trois commerces.
Mais Dieu sait pourtant que l'Angleterre est un pays de commerçants.
Bien sûr, mais dans la langue anglaise, on n'était pas toujours là. N'oubliez pas que la Renaissance monte de l'Italie vers le nord, et effectivement, le XVIIe siècle, le milieu du XVIIe siècle, aura la mainmise de la bourgeoisie, mais pas encore à la fin du XVIe siècle en Angleterre.
Alors vous parlez des milieux sociaux de Montaigne et, donc, oui. Et vous signalez à plusieurs reprises que les essais sont rédigés à une époque charnière. C'est au fond, ça. Grossièrement, c'est-à-dire c'est la fin de l'ordre féodal en Absolument. France mm-hmm. et puis donc le début d'un âge qu'on pourrait dire pré-capitaliste.
Oui. Oui.
Donc avec c'est un basculement qui se déroule vers ça. Quoi vers 1500, 1560, 1580.
Tout à fait.
Alors Montaigne lui-même, donc lui, il appartient plutôt à une catégorie qui serait celle d'une bourgeoisie de robe. Hein, bourgeoisie oui. de robe. Donc il a un pied dans la petite noblesse. Et puis il a déjà un pied dans les nouvelles classes sociales qui vont faire un peu la pluie et le beau temps plus tard.
Ce qui est intéressant,
lui-même est un homme charnière.
Il a un pied dans tous les camps, pourrait-on dire, dans la mesure où il est issu d'une famille marchande bourgeoise qui a fait fortune à Bordeaux du commerce du vin et du poisson salé, et donc il est issu de la bourgeoisie qui lui a permis effectivement d'acheter une charge. Son père lui achète une charge de parlementaire. Au Parlement de, enfin, à la Cour des comptes, la Cour des aides de Guyenne d'abord, et après au Parlement de Bordeaux. Donc il rejoint la robe longue, pourrait-on dire, une noblesse de robe longue.
Petite noblesse, oui.
Petite ouais. de robesse de noble longue, qu'il abandonne à la fin des années 1570, en claquant la porte du Parlement. Il ne peut pas être promu, c'est une histoire tout à fait personnelle. Et là, il est littéralement bombardé, en moins de 2 ans, avec tous les titres de noblesse qu'il faut pour représenter la petite noblesse de Guyenne. Même pas la moyenne noblesse de Guyenne, mais la petite noblesse de Guyenne. Et donc, la complexité de Montaigne, de façon contradictoire, de façon un peu schizophrénique, vous avez véritablement ces trois ordres, ces trois milieux qui sont parmi les plus importants, puisque la jurade de Bordeaux est principalement représentée par deux membres de la haute noblesse, deux membres de la bourgeoisie et deux membres du Parlement. Et Montaigne a connu ces trois ordres-là. Et donc, lui-même a un discours très ambigu, très critique à la fois des deux. Et donc, je crois que la particularité de Montaigne, effectivement, à une société où on ne passe pas facilement d'un ordre à l'autre, c'est effectivement d'avoir exploré les différences entre ces trois ordres-là.
Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est la complexité de l'homme Montaigne qui fait de lui, au XVIe siècle, un médiateur idéal, un passeur, une sorte d'homme passerelle, un petit peu entre les groupes sociaux ?
C'est un passeur. Montaigne n'est pas quelqu'un qui enseigne, c'est quelqu'un qui observe. C'est un très bon observateur. Dans ce sens, il est fondamentalement, d'après moi, anthropologue, hein, puisque, en fait, il n'y a pas de prescription chez Montaigne. Il n'est pas là. On en a fait, au XVIIe siècle, un moraliste. Ça me semble encore une fois un mythe. Montaigne n'est pas du tout moraliste. Il défend des positions précises à un moment donné, mais dans le temps, il sait très bien que ces positions doivent évoluer. Il dit toujours, la vérité d'aujourd'hui n'est pas ce qui est, mais ce qui se persuade à autrui aujourd'hui. Vous, une conception bien différente de la vérité que les autres peuvent posséder à la fin du XVIe siècle. Et donc, vous avez chez Montaigne, effectivement, ce sentiment que, finalement, soi-disant à partir de ce que j'appelle cette quête du Graal, qui est la recherche de la condition humaine. Et l'expression est inventée par Montaigne, humaine condition. C'est lui qui invente le mot humaine condition. Il est à la recherche de l'humaine condition. Mais imaginez Montaigne un peu comme un arpenteur. Il prend la mesure de l'homme. Et plus il prend la mesure des hommes, plus il s'aperçoit de leurs différences. Et ne peut jamais les relier ensemble. C'est effectivement tout le travail que fait un anthropologue qui se préoccupe beaucoup plus de la description des cultures que de les remettre ensemble sous une forme prescriptive. Et donc il n'y a pas de dogme montaignien à une époque où les dogmes font rage, pourrait-on dire, et Montaigne se contente de la description à l'infini. Et plus il écrit, plus il observe la différence, plus il observe la variété, et la force de Montaigne, c'est effectivement dans l'observation de la variété et une description qui est plus anthropologique qu'elle ne serait philosophique, à mon avis, puisque chez Montaigne, l'existence prévaut toujours sur l'essence.
Alors cette fascination pour les différences qu'il peut observer, c'est son talent aussi pour les décrire, pour les observer. Oui. Ça c'est ce qui le tire vers la socialité. Son regard d'anthropologue. Oui. Et puis d'un autre côté, il y a le recul, le retrait, le refuge dans sa particularité à lui, dans son moi. Et est-ce que ce qui n'est pas le plus fascinant, c'est cet aller-retour entre cette socialité, ce sens de l'observation, et puis aussi cette capacité à se dire, au fond, moi, dans ce que je suis capable de résumer les aspirations contradictoires de l'espèce humaine.
Complètement. Mais encore une fois, on ne peut pas l'enseigner chez Montaigne. C'est-à-dire que, et c'est ça, à mon avis, peut-être ce qui a été le plus mécompris chez Montaigne, c'est que Montaigne tire des leçons, mais ces leçons sont toujours pour lui-même et ne veut jamais les imposer, même au lecteur. C'est au lecteur de faire ce travail que Montaigne a pu faire lui-même, de l'observation des autres. Et donc Montaigne passe de l'autre côté du miroir en s'imaginant un mouvement extraordinaire au XVIe siècle, lui-même en tant que cannibale, se demandant qu'est-ce que c'est que de voir un occidental. Donc Montaigne fait effectivement tout le travail que les anthropologues modernes peuvent faire, qui est effectivement d'être conscient... Se mettre à la place de l'autre, en sachant très bien qu'ils auront une vision d'eux-mêmes qui sera réfléchie. Vous savez, les anthropologues, un des gestes les plus intéressants aujourd'hui consiste à donner une caméra, notamment aux indigènes, pour voir comment ils voient le monde à partir, effectivement...
Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette caméra ?
Qu'est-ce qu'ils vont filmer, eux-mêmes ?
Ouais.
Et c'est la grande découverte de l'Occident. Nous ne filmons pas les mêmes choses, évidemment. Et c'est ça. Et Montaigne essaye de comprendre ce phénomène de construction du savoir. Bon,
donc, de ce point de vue, on se trompe pas beaucoup lorsqu'on fait de Montaigne un pionnier de la modernité. Sur ce plan-là, on ne se trompe pas.
Cet aspect est tout à fait juste. Je crois que, oui, effectivement, il y a quelque chose d'hyper moderne chez Montaigne, alors même de la post-modernité, puisque la modernité consiste à rassembler, alors que la post-modernité consiste à déconstruire un peu à la Derrida, hein, à montrer qu'effectivement, cette modernité n'est pas si homogène que cela, et qu'il faut vivre avec la diversité. Et je crois que c'est le postmoderne qui fait fureur à l'heure actuelle dans le monde entier. Montaigne, je reviens d'un colloque au Brésil, il y avait un colloque en Argentine il y a 2 mois, il y en a en Chine. C'est un phénomène global. Il y a une globalisation du phénomène de Montaigne qui permet effectivement de penser, à mon avis, le singulier par rapport aux normes sociales d'une époque.
Alors il y a ce côté ultra-pionnier de Montaigne, oui. Donc on se plaît à souligner, hein, cet homme du XVIe, tellement en avance sur son temps. Bon. En même temps, ce que vous montrez beaucoup dans le livre, c'est un peu le contraire aussi, c'est-à-dire montrer toutes les adhérences de Montaigne à son temps, en quoi il peut être parfois même conformiste. Il y a un conformisme chez Montaigne.
Oui, il y a une défense.
Expliquez-nous ce que ça signifie. Alors, chez
Montaigne
lui.
Est conformiste, Montaigne est conservateur, n'ayons pas peur du mot, il défend le statu quo. Mais encore une fois, ça a jeté pas mal de froid sur Montaigne. C'est-à-dire qu'on a toujours mal compris que quelqu'un qui montre l'égalité des individus dans le monde peut dire, par exemple, qu'il comprend très bien qu'on puisse torturer. Ça, c'est une phrase qui a toujours fait sauter, bondir les observateurs, dire quoi ? Ce n'est pas possible. Et donc, précisément pour Montaigne, il n'y a pas d'universel. Et surtout, il y a deux mondes qui n'ont pas du tout les mêmes repères, pourrait-on dire. Il y a le monde subjectif du privé, et là, dans le monde privé, il y a une sorte de liberté extraordinaire chez Montaigne, et il y a le monde public. Et au nom de la cohésion sociale, au nom de la paix civile, au temps des guerres de religion, Montaigne comprend très bien que celui qui occupe le pouvoir peut agir en fonction de ce qu'on commence à appeler, à la fin du XVIe siècle, la raison d'État. La raison d'État fait agir ceux qui sont à la tête des pouvoirs de façon contraire à ce que devrait être une éthique universelle. Et Montaigne essaye de réconcilier cela en créant une dichotomie entre vie privée et vie publique. Et effectivement, cette liberté absolue est l'expression d'une vie privée, mais pas du tout. Et ce qui explique que Montaigne peut être très conservateur et défend le statu quo à peu près chaque fois pour effectivement ne pas changer les choses. Il a très peur du changement, mais encore une fois, il faut contextualiser cela au temps des guerres de religion et des massacres qui environnent la Guyenne et aux portes du château de Montaigne.
Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être quelque chose que bon, c'est quelque chose qui n'apparaît pas directement dans les essais, mais ça fait partie de tout ce que vous appelez donc ce péritexte. Donc c'est-à-dire que il y a sans doute pas de période de l'histoire de France qui a été plus troublée que celle où a vécu Montaigne.
Bien sûr.
Et si on lit les essais sans s'intéresser en le prenant comme quelque chose à part, on peut très bien passer à côté des guerres de religion.
Absolument.
Ou en tout cas, les
alors je n'ai rien contre
ne pas en ressentir la violence.
Bien sûr. Non, mais je n'ai rien contre les lectures modernes. On peut très bien lire les essais, et 90% des gens le font, à partir d'une lecture moderne qui ignore un peu le contexte historique. Ma démarche, en tant que sociologue...
C'est un peu un Montaigne suspendu en l'air.
Voilà. Et ma démarche était effectivement de lui remettre les pieds sur terre, ouais, et de montrer un peu dans quel milieu il évoluait, et qui explique effectivement ces contradictions apparentes dans les essais.
Voilà, donc ce travail... Alors c'est un travail que vous avez toujours fait.
C'est un travail que j'ai toujours fait.
Vous convoquez la sociologie. Alors, ce qui frappe dans le livre, c'est le recours que vous faites à la littérature sociologique.
Bien sûr.
Vous avez parlé de Durkheim. Oui. Évidemment, vous citez aussi des penseurs politiques comme Marx, par exemple.
Marx, Althusser, sur la notion de l'idéologie.
Voilà, donc finalement, vous tirez Montaigne vers des penseurs qu'on ne s'attend pas forcément à trouver.
Non, bien sûr.
Donc, au chevet de Montaigne, est-ce que ça choque certains,
oui, bien sûr,
certains gardiens du temple de Montaigne?
Absolument, puisque tout à fait, mais j'en étais conscient. Enfin, la biographie avait déjà montré cela, donc j'ai voulu mettre les choses un peu en ordre et proposer cette réflexion plus théorique pour montrer effectivement qu'on pouvait encore utiliser certains concepts pris notamment chez Althusser et chez Marx, la notion d'idéologie, qui me semble fondamentale pour comprendre l'écriture au XVIe siècle. Vous avez le déclin de la noblesse et de l'idéal nobiliaire, bien sûr, et la montée en puissance d'une nouvelle classe qui est la bourgeoisie.
La bourgeoisie, oui.
Et qui défend des valeurs qui sont en opposition flagrante avec celle du féodalisme du Moyen-Âge. Donc ça, c'était effectivement l'apport qui me semblait vraiment nécessaire pour pouvoir comprendre, ouais, cela. Donc j'ai un peu... C'est une sorte de bricolage un peu à la Lévi-Strauss. Hein, donc utiliser effectivement des penseurs depuis le 19e siècle et au 20e siècle, qui se sont intéressés à ces phénomènes pour montrer comment on pouvait effectivement adapter une réflexion théorique à l'écriture des essais et penser les essais dans un contexte plus sociologique, encore une fois, qui est totalement absent aujourd'hui.
Et alors, puisque vous parlez de sociologie, il y a un mot qui revient très très souvent dans le livre. C'est le concept d'habitus.
Voilà.
Vous l'empruntez à Bourdieu. Donc c'est une façon de décrire le versant social de l'individu. Est-ce que vous pourriez, donc ça renvoie aux normes sociales. Qu'est-ce que vous pourriez nous redéfinir ce terme d'habitus?
Un individu, pour s'exprimer, pour réussir, doit fonctionner à l'intérieur d'un groupe. L'exception ne vous mène jamais nulle part, quoi qu'on en dise. Alors, elle peut réapparaître, mais on doit déjà faire sa marque dans un groupe constitué, dans une idéologie constituée qui fonctionne d'après des codes, que Bourdieu appelle un habitus, qui vous permet effectivement de vous intégrer à ce groupe et de faire carrière dans ce groupe. Après, vous avez tout à fait la possibilité de vous dégager de cet habitus, de montrer votre exception par rapport, et c'est ce que fait Montaigne fréquemment, de sortir de cet habitus-là pour vous démarquer. Mais vous ne pouvez pas vous démarquer sans avoir accepté auparavant les codes très structurés de ces habitudes de parlementaires, notamment, et de diplomates, par exemple, au XVIe siècle. Et donc Montaigne connaît très bien ces codes, ces habitus, et encore une fois, la pensée de Bourdieu permet de penser effectivement le singulier, l'exceptionnel, dans un réseau de pratiques qui correspondent à des groupes constitués au XVIe siècle. Les parlementaires et les diplomates sont, d'après moi, les deux meilleurs exemples auxquels on puisse penser.
Alors du coup, pour les sociologues, le sociologue que vous êtes, vous êtes toujours, et puis pour les sociologues que vous citez dans le livre, Montaigne, c'est quand même c'est presque un cas d'école, c'est-à-dire c'est un matériau absolument passionnant pour disséquer cette articulation qui existe entre l'individu et le collectif, et comment l'individu se démarque du collectif, comment il y arrive, et comment en même temps il est toujours raccroché d'une façon ou d'une autre, qu'il le veuille ou pas, qu'il en soit conscient ou pas. Alors Montaigne, est-ce que Montaigne est conscient du fait qu'il est quand même très très conditionné par son milieu ?
Oui et non. C'est-à-dire que la période parlementaire, effectivement, des années 1555 à 1570, 15 années, 14 ans au Parlement et à la cour de Guyenne, là, il fonctionne d'une façon programmée. C'est-à-dire qu'il lui-même, il claque la porte, il n'a pas, effectivement, il ne peut pas rentrer à la Grande Chambre, il n'a pas la promotion qu'il comptait avoir, puisqu'il y avait trop de Montaigne. Enfin, ce sont des histoires des cabales que j'expliquais ça pas dans ce livre-là, mais dans la biographie. Donc Montaigne pâtit pas mal de ces pratiques auxquelles, pourtant, il essaye de faire avec, jusqu'au moment où il ne peut plus. Et donc là, il sort, effectivement, et il y a une période d'hésitation, et il rencontre là donc le marquis de Trans, qui va faire de lui un homme lige, et qui lui permettra d'accéder à la cour, et Montaigne est une sorte de go-between, d'intermédiaire, pourrait-on dire. Donc il joue différents rôles à différents moments, et donc il investit et il retire lui-même un profit de ses investissements sociaux qu'il fait avec la cour du...
Ça, c'est très conscient. Ça, c'est très conscient.
Ça, c'est conscient. C'est conscient, il le dit. Oui. Montaigne le dit, donc il est absolument conscient de ça. Donc là, il est conscient de ces phénomènes-là. Ce qui n'est pas conscient du tout, c'est effectivement, et là, il faut le recul des siècles, de voir effectivement, ce qui me semble le plus important, c'est effectivement la conflagration entre deux idéologies qui se chevauchent, qui... l'idéologie déclinante de la noblesse et montante de la bourgeoisie. À Bordeaux, notamment, c'est un cas d'école à Bordeaux, bien sûr, bien mieux qu'à Paris et peut-être mieux qu'à Lyon encore, parce qu'il y a beaucoup moins de familles, c'est beaucoup plus structuré et beaucoup plus repérable dans les fonctionnements, et plus petit aussi. Je me suis amusé à faire pendant des années une sorte de carte des réseaux à Bordeaux avec plus de 1300 noms, et on peut voir que ça change, mais c'est toujours très structuré.
Mais en tout cas, la conscience de soi de Montaigne et la conscience de ses adhérences avec le milieu social qui est le sien, oui. Est-ce qu'elle est différente quand même lorsqu'il écrit la couche A, la couche B, la couche C des essais?
Absolument, oui.
Parce que vous avez souligné le fait que c'était quand même assez différent, notamment entre la A et la C, la C et la A.
La A, on pourrait dire que Montaigne essaye de rejoindre une corporation qui est à ce moment-là, effectivement... l'intellectuel de Bordeaux et de se faire connaître au roi pour effectivement faire une carrière en tant qu'ambassadeur. C'est son rêve. Hein, l'ambassade, il se voit très bien, il se considère bien, surtout à partir d'une idéologie de la transparence. Il met en avant la transparence à une époque où ça ne marche pas du tout et ça va être un échec flagrant. C'est-à-dire que nous sommes dans l'âge de la dissimulation et de la représentation, déjà au temps de Montaigne. Montaigne ne peut pas supporter cela. Donc il est en contradiction avec son époque.
S'il applique ses thèses de la transparence à une mission diplomatique, il va se planter.
Et il se plante. Et il nous raconte des anecdotes assez surprenantes. Par exemple, il lui dit que sa vie a été sauve deux fois, son château a été attaqué, et il n'avait pas les moyens d'employer des gendarmes pour défendre son château. Donc il avait la politique de laisser les portes ouvertes de son château et de faire comme s'il ne comprenait pas un peu le grand naïf. Et il vous explique dans ses essais qu'un jour, son château a été envahi. Il a prétendu que ça n'avait pas. Il les a invités à dîner. Et les autres ont été assez abasourdis, bien entendu. C'est ce que raconte Montaigne, mais c'est un peu difficile à comprendre. Hein. Donc, généralement, quand vous êtes attaqué dans la rue à Chicago ou à Paris, vous ne pouvez pas vraiment jouer au naïf. Mais Montaigne vous dit oui. Et le matin, quand ils sont repartis, ils l'ont laissé comme tel et... le grand méchant est revenu une semaine après pour lui expliquer, il a répandu la parole, qu'ils avaient été surpris de, et sur le visage de Montaigne, vous avez une forme de naïveté et de transparence qui lui avait sauvé la vie. Et Montaigne est très fier de cela et pense qu'effectivement, il y a un avenir dans la diplomatie, dans la transparence, qui n'est pas du tout le cas au moment des derniers Valois. Et là, il se trompe complètement, encore une fois. Donc vous avez encore une fois une pensée de Montaigne qui est... quelquefois, Montaigne a du mal à comprendre les pratiques de son temps. Il vit dans un idéal nobiliaire du Moyen-Âge. Une parole donnée est une parole tenue pour lui. C'est plus du tout le cas à son époque.
Donc, encore une fois, passage charnière. Et donc, ce Montaigne qui fait le passage entre deux ordres, il a, sur ce coup-là, évidemment, il adhère plutôt par son habitus.
Est-ce que absolument, ça, oui, bien sûr.
À l'ordre ancien.
Complètement. Il donne un très beau chapitre qui n'est pas étudié, qui est abandonné, parce que les gens ne le comprennent pas très bien, qui s'appelle que le chef d'un château assiégé, est-ce que le chef d'un château assiégé doit sortir pour parlementer avec l'ennemi ? Alors, vous avez ici l'idéal nobiliaire, c'est-à-dire que quand on était assiégé, un siège durait quelquefois des mois ou des années au Moyen-Âge, mais de temps en temps, on avait besoin de se ravitailler, donc on prenait son mouchoir, et un mouchoir blanc, et puis on disait, bon, le temps est arrivé de parlementer. Donc on sortait du château, il était accepté, bon, écoutez, là, ça va bien, mais il faut qu'on aille chercher un peu de nourriture, aussi bien pour vous que pour nous. On va commencer à se battre de nouveau, disons, dans 2 semaines. On prendra exactement où on était. C'est un peu comme un jeu d'échecs. Vous laissez votre jeu d'échecs pendant 2 semaines, vous allez faire autre chose et vous revenez 2 semaines après. C'était la pratique à l'époque. Et la parole était tenue. Une parole donnée était une parole tenue, bien entendu. Ce qui se passe au XVIe siècle, et Montaigne est conscient de cela, c'est que c'est tout l'inverse. Maintenant, le chef de la place assiégée prend son mouchoir blanc pour parlementer avec l'ennemi. Il dit oui, d'accord, venez parlementer. Il arrive et on lui coupe la gorge. Voyez-vous ? Et donc là, on est dans une logique machiavélienne, pourrait-on dire, hein, effectivement, de l'efficacité, bien sûr. Et donc Montaigne s'insurge contre cela, et ce chapitre est, à mon avis, profondément sociologique et montre très bien cette contradiction idéologique entre ces deux ordres qui sont en train d'avoir un clash.
Alors dites-moi, cette lecture donc sociologique de Montaigne, cette façon de penser le social dans Montaigne, est-ce que ça retire ou est-ce que ça augmente le plaisir, ça retire du plaisir ou ça augmente le plaisir qu'il y a à lire Montaigne de façon, je dirais, plus détachée, comme une source d'inspiration sur la connaissance de l'âme humaine.
Oui, très bonne question, mais ce que j'ai voulu faire dans ce livre-là, c'est donner quelques points de repère, effectivement, qui permettent de lire différemment certains essais parmi les plus connus. C'est-à-dire que je donne des concepts, je donne des exemples, notamment, qui permettent de lire Montaigne un peu différemment du problème essentialiste du Montaigne, penseur philosophique. J'étais en désaccord avec mon éditeur qui voulait absolument le titre « Montaigne, penseur social ». Et en fait, j'ai surtout pas voulu faire de Montaigne un penseur social, puisque ce livre fait une partie Montaigne qui pense la société, mais j'ai aussi pensé le social contre Montaigne. Voyez-vous, donc c'est une critique, une analyse de Montaigne dans son époque, inconsciente, de Montaigne qui, effectivement, on peut comprendre les fonctionnements de Montaigne à partir de concepts sociologiques modernes, mais ça ne fait pas pour autant Montaigne le premier penseur social. C'est surtout ce que je ne voulais pas faire.
Parce que quelle idée Montaigne se fait-il lui-même de ses propres essais ? Parce que c'est un genre un peu nouveau, les essais.
C'est lui qui invente le genre.
Il invente le genre. Alors donc c'est quand même une profession de foi, c'est un acte littéraire nouveau. Enfin, littéraire, est-ce qu'on peut parler d'acte littéraire ? En tout cas, c'est un acte pionnier.
C'est un acte auctorial, je dirais. Il n'y a pas de littérature aussi. Mais Montaigne écrit. Au XVIe siècle, bon, il y a des romans de Rabelais, mais Montaigne, les essais, effectivement, touche un peu à tout. C'est un texte politique, philosophique, littéraire. Il y a une dimension esthétique dans les essais, bien entendu. Mais c'est une œuvre qui n'est pas encore dans cette division épistémologique qui commencera à se mettre en place au XVIIe, XVIIIe siècle, qui font des essais, un texte soit philosophique, soit littéraire.
Alors, vous avez parlé du titre. On pourrait peut-être aussi faire un petit commentaire sur la couverture, enfin sur l'image de Montaigne que vous avez mise en couverture. On a souvent l'habitude de le voir chauve, petit, avec une énorme fraise, un grand collier de Saint-Michel. Bon. Là, vous le représentez avec une petite fraise. C'est une petite sanguine. C'est très joli d'ailleurs, avec un petit chapeau là, qui fait, on dirait presque un chapeau de
Montaigne voyageur,
chapeau de hipster de Chicago, moderne, non voilà. Donc, alors pourquoi avez-vous choisi cette figure-là, cette image-là de Montaigne, en quoi est-ce qu'elle illustre votre propos ?
Alors, c'est le prochain projet que j'ai, qui est effectivement la réception compliquée de Montaigne à travers les siècles, puisque Montaigne est une construction permanente. Chaque siècle le réinvente, pourrait-on dire. Et ce portrait date effectivement du 19e siècle, où on fait de Montaigne un penseur républicain. Et donc, pour en faire de lui un penseur républicain, on lui enlève le collier de Saint-Michel, bien entendu, hein, il n'est plus noble. Il est maintenant grand voyageur, la découverte du journal de voyage à la fin du XVIIIe siècle, donc on lui met un chapeau et on lui met un manteau de peau d'ours sur le dos pour faire de lui un voyageur et quelqu'un...
Ce qu'il était.
Bien sûr, et qu'on pourrait croiser dans la rue, qui n'est pas vraiment un noble, qui est Monsieur Tout-le-Monde, pourrait-on dire, et qui est la pensée populaire, pourrait-on dire. Et donc cette réinvention de Montaigne à travers les siècles, cette récupération de Montaigne est assez fascinante, me semble-t-il, puisqu'on s'aperçoit qu'elle est totalement contradictoire. À la fin du XVIIe siècle, Montaigne est mis à l'index, donc on ne peut pas supporter effectivement l'extravagance de la mise en avant du corps, hein, donc c'est ça qui sera censuré. Mais pourtant, à la fin du XVIIIe siècle, on fera de lui un penseur chrétien, moral, en édulcorant les essais, en les réduisant, disons, de 1000 pages à 150 pages, ce qu'on appelle donc l'esprit des essais de Montaigne, en le réduisant et en réécrivant Montaigne qui écrivait très mal. Son problème, c'est qu'il écrivait très mal au XVIIIe siècle. Donc chaque siècle a relu Montaigne d'une façon très différente et l'a réinventé. Donc ce qui me fascine également, c'est de voir qu'effectivement, nous réinventons Montaigne en fonction de nos propres attentes. Aujourd'hui, nous faisons de lui le premier penseur libéral, qui est une réception très importante, le père du libéralisme moderne. Et encore une fois, c'est par rapport à nos préoccupations. Vous savez qu'il y a un institut Montaigne, un institut économique. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, quand cet institut a été créé, je suis allé sur leur site internet et ils citaient Montaigne sans arrêt. C'est-à-dire que Montaigne était effectivement le maître d'œuvre de la pensée économique moderne, la pensée libérale. Ils ont depuis supprimé toute référence à Montaigne, et c'est purement une sorte de think tank, donc de pensée économique moderne très influente en France sur effectivement la pensée libérale. Ça s'appelle toujours l'Institut Montaigne, mais toute référence à Montaigne a disparu.
A disparu.
Oui.
Je voudrais vous poser une question un peu d'actualité ici, puisque là, il y a un prix Montaigne ici,
oui.
Prix Montaigne,
oui.
dont le président vient de changer. Mm-hmm. C'est aujourd'hui donc l'académicien Jean-Marie Rouard, mm-hmm. qui est le nouveau président de ce jury de ce prix Montaigne. Alors on l'a interrogé l'autre jour, mm-hmm. Il nous a dit qu'il était évidemment fou de Montaigne, mm-hmm. fou de Montaigne. Et je lui ai posé la question de savoir comment il fallait aujourd'hui lire Montaigne, c'est-à-dire mm-hmm. alors je parlais de la langue parce que c'est une langue.
Oui.
Si on lit l'édition de 1580, je ne sais pas s'il y a plus de 1000-1500 personnes en France qui pourraient la lire couramment, parce que c'est quand même difficile. On fera beaucoup de contresens.
La syntaxe est très difficile.
Il y a une syntaxe qu'on ne comprend plus. Il y a des doubles négations. Il y a des choses assez compliquées. Voilà. Donc évidemment la question c'est de savoir par rapport à un auteur aussi populaire finalement, aussi populaire, comment est-ce qu'on doit le lire. Alors est-ce qu'on doit le traduire, est-ce qu'on doit l'adapter, si on l'adapte jusqu'à où, voilà. Alors quelle est votre position là-dessus, présenter Montaigne aujourd'hui aux nouvelles générations?
Tout dépend comment on l'aborde. Moi je suis pour les traductions modernes. Lire Montaigne est une bonne chose, donc le lire facilement est plus simple que le lire dans le texte du XVIe siècle, effectivement. Donc je suis pour cela. Malgré tout, à l'université, tout dépend des niveaux. Au lycée, certainement, lire des traductions en français moderne me semble tout à fait logique. À l'université, je trouve qu'il est quand même un peu dommage de ne pas être capable de lire Montaigne dans cette langue un peu difficile, mais compréhensible. Il faut faire quand même l'effort.
Il y a des mots magnifiques. Jean-Marie Roy citait cette phrase où il parle de débolesse et de molitude.
Des
mots qu'on n'utilise plus, qu'on ne comprend plus, mais par contre, quand on les entend, ils ont de la saveur, on comprend ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il faut traduire ces mots-là?
Il y a des contresens, il y a des faux sens très difficiles. Par exemple, le mot qui apparaît très souvent dans les essais, aucun. Aucun aujourd'hui veut dire rien, alors qu'au XVIe siècle veut dire quelque. Voyez-vous, donc c'est totalement l'inverse.
Voilà.
Donc à chaque fois que vous lisez Montaigne...
Ça fait partie des contresens.
Voilà, des contresens, quand vous lisez Montaigne, mes étudiants ont toujours ce problème, lisent aucun, c'est aucun aujourd'hui, alors qu'aucun veut dire non, quelque, au XVIe siècle. Et donc là, vous avez comme ça 4-5 contresens. Celui-là est très important, parce que le mot aucun apparaît deux fois par page.
Alors évidemment, il faudrait avoir fait de l'ancien français pour aborder Montaigne, ce qui n'est pas le cas de tous les étudiants.
Non, mais bon, avec quelques codes, on peut quand même... C'est 10 mots...
Donc entre le texte original et puis une traduction en français moderne, est-ce qu'on peut simplement se contenter d'une adaptation qui va garder la saveur de Montaigne tout en le rendant mieux compréhensible?
Oui, bien sûr. Non, je crois que c'est tout à fait normal de traduire Montaigne en français moderne. Alors, il y a aussi une dimension...
Adapter.
Vous avez aussi, chez Montaigne, une dimension verbale très importante, hein, puisque Montaigne s'écoute très souvent. Montaigne dicte ses essais, ses premiers essais, et il va rédiger dans les marges de l'exemplaire de Bordeaux très tardivement. On sait que Montaigne, notamment, dictait même son journal de voyage, une partie du journal, et donc on a un peu oublié cela, donc c'est une pratique très différente. Vous avez la tour de Montaigne, c'est un parloir, un peu comme le gueuloir de Flaubert, hein, donc il parlait, et il y a une dimension, effectivement, qui n'est pas écrite, mais verbale dans les essais. Et donc ça, on peut la retrouver avec cette langue, effectivement. Donc une langue moderne perd un peu cette idée.
Montaigne faisait ce que faisait Flaubert dans son gueuloir ?
Il lisait à haute voix les essais, puisqu'en fait, la lecture à basse voix est une invention du XVIIIe siècle, ouais. À partir des bibliothèques, où il est devenu impossible de lire à haute voix. Mais ce n'est pas un réflexe naturel, vous savez très bien, avec les enfants. C'est-à-dire qu'on leur apprend à lire sans parler est une chose difficile, parce qu'on commence à lire en parlant. Et au XVIe siècle, quand on lisait, on parlait, véritablement. C'est au XVIIIe siècle, effectivement, qu'on a commencé à lire en silence. La lecture en silence, mais ce n'est pas quelque chose de normal et qui n'existe pas au XVIe siècle.
Vous avez évoqué l'exemplaire de Bordeaux.
Oui.
J'ai appris dans votre livre, donc vers la fin, que... il y avait un projet d'inscrire cet exemplaire de Bordeaux dans la mémoire du monde de l'UNESCO. Vous pouvez préciser de quoi il s'agit ?
Oui, alors moi j'ai fait pour le ministère de la Culture et la ville de Bordeaux, il y a environ 12 ans, une reproduction en couleur de l'exemplaire de Bordeaux. J'ai eu le privilège d'être parmi les quelques étrangers, où je suis américain et français, à avoir accès à l'exemplaire de Bordeaux. Et c'est effectivement un trésor national, puisqu'il est classé en tant que trésor national. Et il y a le projet, à l'heure actuelle, de le faire passer dans le patrimoine universel de l'UNESCO. Ce projet est en marche, je fais partie du comité, un comité international, qui permettrait à Bordeaux d'avoir beaucoup plus de visibilité grâce à Montaigne. Je crois que la visibilité de Montaigne est sous-exploitée à Montaigne. Le cénotaphe a été refait. Hein, vous savez que si vous passez, il a été restauré. J'ai aussi aidé un peu à présenter le cénotaphe. J'ai fait un livre d'iconographie il y a quelques années. Je crois que Montaigne occupe une place importante. Bon, ça a toujours été le cas à Montaigne, bien sûr. Hein. Et pratiquement tous les maires de Bordeaux ont fait des livres sur Montaigne. Chabran-Delmas en avait fait un, bien sûr.
Ouais. J'imagine que dans le dictionnaire amoureux de Bordeaux qu'Alain Juppé se prépare à publier,
il y aura Montaigne.
Il y aura 40 pages sur Montaigne.
Bien sûr, absolument. Hein,
et 50 sur Montesquieu.
Voilà,
et 60 sur Mauriac.
Voilà, les 3 M de Bordeaux, bien entendu. Mais, donc Montaigne, je crois, et il y a un tourisme très important. Vous allez à la tour de Montaigne, par exemple. J'y vais tous les étés, j'enseigne à des étudiants américains. Je connais les propriétaires, donc je fais un cours dans la tour. Ces étudiants des États-Unis, dirais-je, effectivement, ont le privilège de lire Montaigne dans la tour, mais j'ai perdu un peu le fil.
On était en train de parler de l'exemplaire de Bordeaux.
Voilà, l'exemplaire de Bordeaux est un document assez extraordinaire qui devrait, à mon avis, avoir beaucoup plus de visibilité, puisqu'il permet une forme de tourisme étranger. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, les 2/3, je crois, le propriétaire m'expliquait, des visites à Bordeaux aujourd'hui ne sont pas par des Français, sont faites par des étrangers qui viennent voir la tour de Montaigne. C'est assez extraordinaire. Et donc, je crois que c'est, au point de vue du tourisme à Bordeaux, je crois qu'il y a vraiment un filon à exploiter.
Vous avez d'ailleurs mentionné tout à l'heure, c'était quand on s'est croisés, là, au début de notre entretien, que Montaigne était traduit. Donc,
bien
il y
sûr.
Avait de très nombreuses traductions en anglais, mais
bien sûr.
Des traductions en chinois, des traductions...
Bien sûr.
Dans combien de langues est-il traduit ?
Je vais au Brésil tous les ans parler de Montaigne. Je vais en Argentine tous les ans parler de Montaigne aussi. Il y a, durant les 10 dernières années, 7 traductions de Montaigne en chinois. Hein, c'est assez extraordinaire. Des traductions en coréen, je crois que Montaigne est traduit dans 32 langues à l'heure actuelle.
C'est pas mal.
L'hébreu, il y a 3 ans. Le turc, il y a 4 ans ou 5 ans de cela. En grec moderne, il y a 5-6 ans. Et donc, vous avez véritablement une fascination globale avec Montaigne qui est...
C'est un penseur du monde global.
Oui, c'est un penseur de la globalité.
De la globalité, et donc oui. il est reconnu comme tel aujourd'hui.
Oui, absolument.
Après une éclipse, hein, quand même. Après
oui, bien sûr, oui, il est une éclipse. Alors, il est surtout reconnu dans les départements de philosophie. Hein, donc, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir cette vision épistémologique, de voir la réception de Montaigne dans les différentes disciplines. Et j'essaye de vendre un peu mon champ d'étude, qui est les sciences sociales, bien entendu. Mais je m'aperçois qu'il y a une sorte de baisse d'intérêt dans les milieux littéraires, il faut le reconnaître, par rapport au milieu du XXe siècle, où Montaigne était avant tout littérateur, bien entendu, enseigné principalement dans les départements de littérature, alors que toutes les activités, 80% des activités montaigniennes dans le monde à l'heure actuelle, sont dans les départements de philosophie, il faut le reconnaître.
J'ai oublié de mentionner, vous concernant tout à l'heure, que vous dirigez une revue
oui.
qui s'appelle Les Montaigne Studies.
Depuis 32 ans.
Voilà, hein, donc c'est à mentionner. Donc voilà. Bon, eh bien écoutez, On va peut-être s'arrêter là. Donc je vous remercie. Je vous remercie beaucoup d'être venu. On va applaudir Philippe Dessant, le remercier. Voilà. Donc Montaigne, Pensée le social aux éditions Odile Jacob.